Bonjour à tous et merci pour toute cette introduction et pour ces chants. Alors, cela ne vous a peut-être pas échappé, mais aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier, c'est la fête des mamans. Et beaucoup d'enfants ont préparé, moi j'étais une ancienne enseignante, alors c'était un moment un peu clé, ils ont préparé une petite carte, fabriqué un petit objet, peut-être même ont récité un poème pour leur maman. C'est mignon. Mais au-delà de ça, au-delà de ces émotions, c'est une expression de la relation privilégiée qu'un enfant a avec sa maman. En effet, chaque enfant peut s'appuyer sur la certitude que sa maman le connaît et lui donne tout ce qu'il a besoin. Ses petits plats préférés, des câlins, de l'encouragement. L'enfant a confiance en sa maman. Il peut se tourner vers elle s'il tombe, il sait qu'elle le relèvera et puis qu'elle le soignera. Il peut même lui dire ses secrets. En fait, il est sûr de son amour. Ainsi, si sa maman le gronde, ben il accepte. Elle lui demande de lui obéir, ben il le fait, ou à peu près. Eh bien, c'est cette certitude, cette assurance qui permet à chaque enfant de grandir harmonieusement, de devenir un homme ou une femme équilibré, autonome. Et on sait ce que le manque d'amour fait comme dégâts chez beaucoup d'enfants. De la même manière, Jean, dans ce dernier chapitre 5 de sa lettre, de sa première lettre, désire que les enfants de Dieu vivent dans des certitudes. Certitude concernant Jésus-Christ, certitude de la vie éternelle et certitude d'être entendu par leur Père. On va lire les 15 premiers versets de ce chapitre 5, le dernier chapitre. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et celui qui aime le Père qui fait naître à la vie aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde ? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ainsi, il y a trois témoins, l'Esprit, l'eau, le sang, et les trois sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et qu'affirme ce témoignage ? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. là la parole du Seigneur. Et moi, lorsque j'ai lu les 5 premiers versets de Jean, vous allez dire que ma tête est faite drôlement. Eh bien, dans ma tête, surtout à la suite de tout ce qu'on avait lu les 4 chapitres précédents, eh bien, j'ai plein de flèches, des schémas qui se créent. Eh bien, je vais vous faire un peu rentrer dans ma tête parce que j'ai retranscrit ce schéma. C'est ma manière de voir. Mais j'espère qu'elle vous sera utile. Voilà, c'est ça qu'il y a dans ma tête. N'ayez pas peur. Alors, bien sûr, ce schéma, il n'existe que par l'amour de Dieu pour nous. Et je pense que Joachim nous l'a bien fait entendre ce matin. Alors, j'ai schématisé ici, j'ai fait un schéma qui, en fait, est une dynamique. C'est dynamique, c'est pas un schéma fixe. Alors, il y a une ligne, j'ai schématisé une ligne, dont le centre est l'obéissance. L'obéissance, c'est garder, pour Jean, c'est garder les commandements de Dieu. Les deux extrémités sont identiques, à savoir la nouvelle naissance, qui conduit sur cette route de la foi en Christ. Alors, si on part du début de la ligne, on voit que l'enfant de Dieu croyant atteint l'obéissance par la voie de l'amour pour Dieu et pour les enfants de Dieu. Merci pour tout ce qui a été dit avant. Et si on part du bout de l'autre extrémité de la ligne, on voit que la route de la foi vers l'obéissance passe par la voie de la victoire sur le monde, comme il est dit au verset 4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Alors là, moi, je vais surtout m'occuper de cette deuxième partie du schéma. Aujourd'hui. La première, je vous renvoie à ce qui avait été dit tout à l'heure en intro, et puis surtout aux prédications des chapitres 3 et 4. Donc, on va s'occuper de cette deuxième partie. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Cette victoire est remportée sur le monde. Pour Jean, ça veut dire que surtout victoire sur tout ce qui s'oppose à Dieu et qui rend difficile l'obéissance. Par exemple, c'est la victoire sur les pressions morales. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on est sous certaines pressions. Pression de l'argent, il faut toujours travailler, être rentable, efficace. Si on ne gagne pas beaucoup d'argent, on n'est pas très bien considéré. On a la pression du pouvoir. On est entouré de tentations. Je ne vous parle ni de l'orgueil, ni de la violence. En fait, la liste est longue. Ce sont les pressions morales. Et là, nous avons la victoire là-dessus. Comme nous avons la victoire sur les pressions intellectuelles. Nous sommes environnés, nous entendons des idées qui ne correspond pas à la parole. Et il faut s'accrocher, je dirais, à ce schéma, à tous ces éléments, pour garder le discernement et garder le chemin, le bon chemin. C'est aussi la victoire sur les pressions physiques qui englobent toutes les persécutions. Et là, on témoigne toutes les nouvelles que nous recevons semaine après semaine par porte ouverte. Mais cette victoire, vous l'avez bien compris, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas celle des hommes avec ces petits biscottos. Non, cette victoire, c'est celle que l'on partage avec Christ. C'est lui qui a triomphé de tous ses ennemis et nous triomphons aussi par Christ. Verset 5, « Qui en effet triomphe du monde ? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » cette dynamique, tout ce schéma de la vie d'un enfant de Dieu, il n'est pas statique, je vous le dirai, parce qu'il produit en plus des certitudes, dont celle concernant Jésus et la vie éternelle. Jean, dans ce chapitre, il a pour objectif d'affermir l'assurance des chrétiens sur qui est Jésus, sur la personne de Jésus, sur sa divinité. Il est fils de Dieu. Alors nous allons relire les versets 6 et 7. Et 6 et 9, celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang, et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur, et ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. C'est ce témoignage de Dieu à son Fils qui prouve la divinité de son Fils. Et on le voit par le témoignage de l'eau, qui se rapporte au baptême de Jésus dans le Jourdain, où le Père témoigne par une voix provenant du ciel et dit « C'est Jésus, c'est mon Fils bien-aimé ». Et puis il y a le témoignage par le sang, qui se rapporte à la mort de Jésus, à la croix, où toute son œuvre, sa mission est accomplie. Il l'a fait avec amour, avec une obéissance totale à son Père. Et ce jour-là, son Père témoigne encore par trois miracles. Les ténèbres, le tremblement de terre, le déchirement du voile du temple. Ce qui fait crier le centenier qui est au pied de la croix, il dit « Mais il était vraiment le Fils de Dieu !» Lors de son baptême et de sa mort à la croix, Dieu le Père a rendu témoignage à la divinité de son Fils. C'est une certitude. Et puis, il y a un troisième témoignage. C'est le témoignage de l'Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a été envoyé et qui témoigne par son action quotidienne en nous, en nous ouvrant les yeux, pour voir la vérité présente en Jésus. Parce que malheureusement, nous naissons, nous vivons dans le monde avec un esprit corrompu. Nous avons même une certaine inimitié contre Dieu. Moi, je l'ai vécu très fort dans mon enfance et mon adolescence. Mais cette triste réalité, elle est écartée par la régénération et la nouvelle naissance de l'âme par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, chaque jour, puisque l'on ne voit plus Jésus, parle en nous, nous dirige. Verset 11. Et qu'affirme ce témoignage ? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est son Fils. Étant son Fils, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le verset 13, je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Une autre certitude. Ce verset 13, c'est un peu le point sur les i de Jean. Il veut que les enfants de Dieu nés de nouveau est cette certitude qu'ayant cru en Christ, ils ont reçu et possèdent la vie éternelle. Certes, les chrétiens pour lesquels il écrit ont été perturbés par de faux enseignements. Ils ont un peu perdu leur repère. Mais Jean leur écrit tout cela pour qu'ils retrouvent la voie de cette bonne dynamique et qu'ils s'accrochent à cette certitude sur la personne de Christ qui donne la vie éternelle. Et j'insiste sur le fait que la vie éternelle est un don et qu'elle ne se mérite pas. c'est aussi valable pour nous aujourd'hui, parce que il faut rester accroché sur ces certitudes, parce que très souvent, il y a des petites voix qui se font entendre et qui disent « Vous êtes sûr de votre salut ? Vous n'êtes pas un petit peu présomptueux, là, de croire que vous êtes sauvé ? T'es qui, toi, pour croire ça ?» Or, ces certitudes, moi, je m'y accroche. Parce que c'est un message d'encouragement extraordinaire. Et puis, ce schéma, il aboutit aussi à une autre certitude, la certitude d'être entendu. Lisons le verset 14 et 15. « Voici qu'à l'assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Une autre certitude, c'est que nos prières sont entendues et que le Seigneur répond. Nous pouvons nous approcher librement du Père, lui parler de nos besoins quotidiens. Mais si nous sommes dans cette dynamique chrétienne, on ne va pas prier n'importe comment. Parce qu'on va prier en ayant conscience que nous avons accepté notre état de pécheur et en étant honnêtes avec nous-mêmes et en déposant ce fardeau du péché, demander pardon au Seigneur. Et puis, il nous est dit de prier selon la volonté de Dieu. Et là, je vous dirais que c'est assez délicat. Je ne sais pas pour vous, mais trouver la volonté de Dieu lorsque l'on prie, ce n'est pas si facile que ça, parce que très souvent, on est égocentré. On prend un peu Dieu pour un distributeur automatique. Chercher, discerner la volonté de Dieu de la nôtre, de nos intérêts. Par exemple, moi qui ai passé beaucoup d'examens enfants, adolescentes et même adultes, il y a une différence d'attitude si on dit « Seigneur, je te prie pour réussir cet examen. » Je le mérite hein, quand même, j'ai beaucoup bossé. Hein. Ou bien « Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi la force d'étudier pour cet examen et que ta volonté soit faite. J'accepte le résultat. Que ta volonté soit faite. Je te remets cet examen pour qu'il soit à ta gloire. » C'est pareil pour le choix d'un métier, c'est pareil pour plein de choses dans la vie. Ce n'est pas la même attitude. Hein ? Je le veux, s'il te plaît, fais ce que je réussisse. Ou ce sera selon ta volonté, donne-moi les éléments pour y arriver, si c'est ta volonté. Alors, quand on prie, prenons le temps de lire la parole, prenons le temps de nous mettre à l'écoute de l'Esprit en examinant les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons lorsque nous prions. Le verset 14. « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. » Dans cette attitude de cœur, nous pouvons avoir la certitude que notre Père nous écoute. Et le verset 15, « Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Nos demandes sont acquises. Comme une maman veille aux besoins de son enfant, Dieu répond à nos besoins. Prier, c'est aussi se mettre dans cette position filiale de dépendance, d'intimité avec notre Père. Je peux lui demander, car je sais qu'il m'aime et je sais qu'il pourvoira à mes besoins. C'est une certitude. Nous savons que nous avons ce que nous lui demandons. Et là, je dois vous dire que pour moi, j'aborde un sujet qui est un peu délicat. C'est le sujet de l'exaucement. Tout n'est acquis, mais est-ce que tout est exaucé ? C'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'en effet, nous ne voyons pas toujours l'exaucement de nos prières. mais nous avons cette certitude qu'il écoute, qu'il nous entend, qu'il nous aime et qu'il pourvoit à nos besoins. Alors, je ne sais pas vous, mais parfois, ça provoque en moi une certaine frustration. Mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et Dieu est souverain. Et il m'a fallu des années pour que ces mots passent de la compréhension, tout ce qui se passe dans ma tête, vous avez vu, c'est un peu... C'est très clair, hein, mais bon, pas pour tout le monde. Alain, parfois, il a un peu peur. Ça a mis beaucoup de temps pour passer de cette compréhension à quelque chose de vivant dans ma vie. Parce que je fais des prières depuis des dizaines d'années qui ne sont toujours pas exaucées. Mais voilà. On pourrait penser qu'il y a un décalage entre nos prières et leur exaucement. Alors, moi, là, il est encourageant de penser que lorsque le temps du royaume arrivera, le royaume de Christ, toutes nos prières seront exaucées. Parce qu'il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrance, plus de corps qui souffre, plus même de souffrance psychologique, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de violence. En fait, toutes les prières seront exaucées. Et cette espérance, c'est un encouragement ultime qui me permet encore de persévérer dans la prière et encore peut-être pendant 10 ans, la même prière, c'est dans les mains du Seigneur. Alors, des certitudes en 2026 ? Je vous laisse la réponse avec tout ce que je vous ai dit. Mais pour conclure, je voudrais mettre ce passage en perspective avec le contexte de l'époque. Jean a écrit ce livre pour des personnes qui ont cru au message de la bonne nouvelle, mais qui ont perdu leur repère au fil du temps et au fil des mauvais enseignements. Et dans ce chapitre, Jean rappelle tous les éléments pour vivre une vie chrétienne authentique. Les chrétiens de l'époque, ils en ont d'autant plus besoin qu'ils vivent au sein de l'Empire romain. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, l'Empire romain, c'était le summum. Il gouvernait une puissance sur toute la terre connue. Et il y avait énormément de pression. Surtout quand on faisait partie des peuples envahis. Et puis surtout lorsqu'on était chrétien. Des pressions culturelles, des pressions sociales. Par exemple, dernièrement, j'ai entendu que si on faisait partie d'une profession, par exemple boulanger, et qu'on ne donnait pas un culte à la divinité des boulangers, et qu'il y avait un petit problème dans la boulangerie où on vivait, eh bien, tout le monde se tournait vers ce chrétien qui n'a pas respecté la divinité du pain. Rendez compte la pression. Si je vous parle même pas de la persécution sanglante dans les arènes, c'est pas facile la vie de chrétien à l'époque des Romains. Alors dans ce chapitre, Jean interpelle les chrétiens en leur demandant d'examiner leur vie avec les éléments de ce schéma de dynamique chrétienne. Il leur dit. Avez-vous vraiment chevillé au corps ces certitudes que Christ est le Fils, qu'il nous donne la vie éternelle et que le Père vous écoute? Mais pourquoi Jean insiste-t-il autant? Vous savez pourquoi? C'est parce que Jean désire profondément que les chrétiens soient prêts pour le jour du retour de Christ. Et pour qu'ils puissent participer au grand banquet de la noce de Christ avec son Église dont ils font partie. Il nous en a parlé ce matin de ce banquet. Alors, en attendant, les chrétiens, ils doivent tenir bon dans leur foi. Ils doivent témoigner, résister aux pressions. Et cette exhortation, elle nous concerne encore aujourd'hui, complètement. Nous pouvons de la même façon nous laisser exhorter et encourager par ce texte. Et je vais vous laisser avec ces sujets de réflexion pour la semaine. Ma vie est-elle dans cette dynamique chrétienne ? Est-ce que j'ai vraiment conscience ? Est-ce que ces certitudes font vraiment sens et vie dans ma vie ? Est-ce que je suis prêt pour le retour de Christ, pour participer à ce banquet de noces ? Alors, remettons nos choix quotidiens dans cette perspective. Tournons les yeux vers l'aube qui ne tardera pas. Et moi aussi, j'ai fini par les versets qui ont suivi ceux qu'a choisi ce matin Joachim. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Oui, viens Seigneur Jésus. » Et pour moi, c'est un verset d'espérance. Un verset comme un rocher sur lequel s'accrocher pour résister, pour être son enfant, quoi qu'il arrive. Enfin, en tout cas, je prie pour cela. Pour finir, je vais prier. Merci, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes devenus tes enfants. Merci pour la certitude que Jésus est le Fils de Dieu, qu'en lui, nous avons la vie éternelle et la victoire sur le monde. Apprends-nous à t'aimer, à garder tes commandements avec joie. Fortifie notre foi et rappelle-nous que nous sommes unis à Christ pour toujours. Fortifie-nous pour vivre en cohérence avec notre profession de foi. Merci aussi parce que tu entends les prières de tes enfants. Donne-nous de venir à toi avec confiance et de nous reposer dans ta volonté parfaite. Au nom de Jésus, amen.